Délivrez-vous. Une émission littéraire présentée par Claudine Bugat pour ceux qui aiment lire et ceux qui n'ont pas le temps.
C'est de zèle.
Bonjour à toutes et tous. Je sais que au dehors il ne fait pas très beau, un peu grisouille, un peu de pluie, mais il ne fait pas très froid. Alors je vous propose une balade en forêt. Alors la forêt, bien sûr, il y a les arbres, les sentiers, les animaux, mais il y a aussi des activités, ce peut être un petit week-end dans une cabane perchée dans les arbres, pourquoi pas, tout simplement la cueillette des champignons, mais attention, il faut être prudent, il faut s'y connaître, n'oubliez pas d'aller chez le pharmacien par exemple si vous avez des doutes. Et puis ça peut être aussi, pourquoi pas, faire du cheval, c'est en tout cas connaître la forêt, connaître cet environnement. Une forêt, ça respire, une forêt c'est un poumon, une forêt c'est nécessaire, et puis tout simplement respirer, écouter la nature, se promener. Alors, pour se promener, bien, je vous propose aujourd'hui une invitée qui va nous parler de la forêt, des forêts qu'elle connaît. En tout cas, je vous emmène en forêt avec Natacha Pénaud, aux éditions Gallimard. Bonjour Natacha Pénaud.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté mon invitation pour délivrez-vous pour ces deux ailes. Donc je disais pour ce très très beau livre qui peut faire l'objet d'un très beau cadeau pour ceux qui aiment la nature à s'offrir ou à offrir, hein, puisque voilà dans quelques jours maintenant, quelques semaines, ça va être Noël. Alors je disais en forêt aux éditions Gallimard, vous êtes l'un des auteurs de ce magnifique livre. J'ai envie de vous dire, on le disait hors micro, que c'est aussi un collectif d'auteurs. N'est-ce pas?
Oui, tout à fait. Oui, on est plusieurs auteurs. Il y a des journalistes, des auteurs, des professeurs de géographie.
Oui. Des blogueurs, voilà.
Et aussi. Des blogueurs également. Oui. Et donc, on s'est attelé à cette tâche immense et passionnante, oui. Oui. Donc de partir à la découverte de nos forêts françaises. Et voilà, donc on est allé chercher un petit peu partout et on a fait une sélection des plus belles forêts, oui. celles qui nous ont touchées pour certains aspects, oui. Pour leur richesse, voilà.
Et vous-même alors, qui est Natacha Pénaud?
Alors moi je suis auteure de guide de voyage, oui. Donc ça fait plus de 15 ans hein, que je parcours la France, l'Europe et une partie du monde pour écrire des guides.
Quel beau métier, voilà. Quel beau métier, moi qui adore voyager, je suis une grande voyageuse aussi, donc merci de faire ça pour ceux qui aiment voyager. Alors, la France, est-ce qu'on peut dire que la France est un pays de forêts? Nous avons beaucoup de forêts en France.
On a beaucoup de forêts. En fait, la forêt française recouvre à peu près un tiers du territoire.
Donc, ah oui, quand même, c'est pas mal.
Ce qui est quand même pas mal. Et la forêt française aussi, il faut le savoir, a doublé sa surface en fait en plus d'un siècle.
Ah oui.
Donc on a l'impression que la forêt rapetisse. Mm-hmm. C'est une fausse idée, hein, c'est une fausse idée qu'on a sur la forêt. En fait, non, pas du tout, c'est le contraire. Donc il y a plutôt... Elle rattrape du terrain.
Et alors, c'est dû à quoi? C'est dû à quoi alors?
Ah, c'est dû à la politique de reforestation. Mm-hmm. Parce que une forêt naturelle, ça n'existe plus, hein, ça n'existe pas. Oui. C'est une culture, c'est ce qu'on appelle la sylviculture. Mm-hmm. Donc, c'est l'Office national des forêts qui entretient la forêt française, qui l'exploite. Oui. Parce qu'une forêt, c'est aussi, une ressource qu'on exploite, hein, évidemment.
Un patrimoine.
Voilà. Mm-hmm. Mais donc, c'est cette politique orchestrée par la sylviculture qui permet justement un développement de la forêt française. Mm-hmm. Et puis aussi, c'est parce qu'il y a un siècle, on s'est rendu compte que, notamment dans les régions montagneuses, la déforestation avait un
impact,
causait des catastrophes. Quand il y avait des intempéries, par exemple, des grosses intempéries provoquaient, en fait, comme les arbres n'étaient plus là pour, si vous voulez, accrocher la terre. Oui. Ça faisait des coulées de boue et des ravages dans les vallées, donc ça ensevelissait des villages, etc. Mmh. Donc il y a eu une politique de reforestation à ce moment-là, et ça a été un mouvement à l'échelle nationale.
Mmh. Mais également, quand il n'y a plus d'arbres, il y a aussi le problème du vent, c'est-à-dire que le vent s'incruste plus, fait plus de dégâts aussi, et les arbres peuvent être un rempart à une tempête aussi, non ?
Tout à fait, oui, c'est exactement ça. Mmh. C'est un rempart, on voit bien par exemple sur le littoral, hein, les forêts, la forêt landaise, elle a été plantée pour ça, hein, parce que justement les vents et les marées repoussaient le sable dans les terres, donc les villages qui étaient sur la côte, pareil, subissaient l'ensablement. Mmh. Donc on a planté des pins par millions pour empêcher cette avancée dunaire. Mmh.
Alors le livre parle des forêts de toutes les régions françaises, hein, l'Île-de-France, de l'Aquitaine, Centre-Val de Loire, la Touraine, etc. Enfin toutes les régions. Je me permets de citer le Centre-Val de Loire parce que ici nous y sommes. On s'aperçoit que finalement, alors très bien documenté aussi, de belles illustrations, vraiment un très très beau livre. On s'aperçoit qu'en fait en forêt, ben il n'y a pas que la balade dans les sentiers, il y a aussi des activités. On a créé des activités. Je parlais des cabanes perchées. Il y a tout un tas de choses. Vous, parmi les forêts que vous connaissez, que vous avez étudiées, est-ce qu'il y en a une qui vous a plus touché que d'autres, ou vous êtes dit ah ben là je ressens quelque chose, une forêt qui vous a touché, qui vous a ému un peu plus qu'une autre, par exemple?
Il y en a beaucoup, en fait. Donc, c'est très évident de faire un choix.
Oui.
Parce que c'est vrai qu'on a une vraie richesse en France de variétés de forêts, en fait. Hein. Mm-hmm. On a beaucoup de forêts qui ont une forte personnalité.
Oui.
Alors, je peux peut-être évoquer le bois de paille-olive. Donc là, on est au pied des Cévennes ardéchoises.
Oui.
Le bois de paille-olive, c'est le bois qui a été surnommé le bois des fées. Donc, ça vous donne déjà une image.
C'est joli. C'est très joli.
On rentre un peu dans une forêt à l'aspect un peu magique. Parce que c'est... en fait, le bois de paille-olive, c'est un plateau calcaire
qui
a été sculpté par les pluies saisonnales, dont on sait qu'elles sont vraiment très violentes.
Parfait.
Et donc, depuis la nuit des temps, le travail de la pluie a fait son ouvrage et a créé un espèce de labyrinthe de roches et de roches étranges qui ont parfois l'aspect d'animaux pétrifiés.
Mmh.
Et puis tout le cortège de chênes biscornus, de d'arbres de garrigue, de lianes, de lichens, de mousses.
Ah oui.
Donc on a l'impression, en fait, en pénétrant cette forêt, d'être déjà un petit peu l'âme d'un explorateur, et puis de découvrir une espèce de cité oubliée en ruine. Comme dans une jungle lointaine. Donc c'est en cela, c'est une forêt assez ludique à découvrir, parce que c'est vraiment un labyrinthe. Hein. Alors on s'y perd facilement, donc on reste bien sur les sentiers.
Sur les sentiers,
parce que c'est quand même une forêt qui peut être dangereuse. Il y a beaucoup de fissures, de crevasses, etc.
D'accord.
Donc des sentiers ont été balisés, dont un qui est vraiment accessible aux familles, donc on peut faire une balade d'une heure tout simplement et partir à la découverte justement de ces roches en forme d'animaux, passer sous des tunnels,
ça va être très sympa,
sous des arches. Donc voilà, ça c'est vraiment une chouette forêt à découvrir.
Alors, j'ai eu le sentiment, en lisant le livre aussi, qu'il a fallu rendre la forêt attractive. Les cabanes perchées, différentes activités. Pourquoi ? Parce que la forêt était une activité oubliée ou simplement pour des raisons, je dirais, écologiques et économiques, il a fallu rendre la forêt plus attractive ?
Bah, en fait, c'est peut-être un patrimoine qu'on découvre sous un autre jour, parce que c'est vrai que la forêt, on a tendance à penser qu'il y a tout champignons, et puis mais en fait c'est beaucoup plus que ça, et donc c'est vrai que il y a eu ce mouvement là d'hébergement insolite qui s'est développé un petit peu partout, et c'est vrai que la forêt s'y prête vraiment bien. Les envies de retour à la nature dans une époque où on est vraiment dans la prise de conscience sur l'environnement et l'écologie, les gens ont envie de ça. Et c'est vrai que la forêt, il n'y a pas mieux, hein, parce que on est vraiment à la source de tout. C'est ce qui nous permet de respirer. Donc, on a envie de respirer et Bah, on trouve, voilà, on trouve ces hébergements respectueux de la nature, donc les cabanes dans les arbres, les cabanes perchées, des bulles aussi, des bulles qui sont transparentes. On peut avoir
le ciel et les étoiles.
Regarder les étoiles, voilà. Ouais. Voilà, ça permet vraiment une immersion, une immersion complète. Voilà, avec on entend les bruits de la forêt,
les animaux,
on s'éveille avec le pépiment des oiseaux, les cabanes suspendues dans les arbres, les arbres ils vivent, hein, donc on flotte légèrement, voilà, quand on est en hauteur, voilà, c'est le meilleur moyen de sentir la forêt, c'est de dormir.
Il y a aussi les tyroliennes, les petits ponts suspendus, enfin plein de choses très 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 sympas.
Oui, il y a des activités, voilà, des activités.
Tout à fait.
Oui, l'acrobranche, mais aussi la grimpe d'arbre qui c'est pas de l'acrobranche, là c'est vraiment, donc ce sont des installations temporaires pour vraiment
grimper aux arbres.
Un tronc d'arbre, voilà, comme quand on était
enfant et qu'on s'écorchait les genoux en disant grimper aux arbres.
Exactement. Donc là on le fait en toute sécurité avec les professionnels, mais c'est une activité aussi qui est vraiment sympa.
Alors vous disiez aujourd'hui qu'il n'y a plus de forêt dite naturelle, c'est-à-dire qu'on a une reforestation, on replante, on refait, mais malgré tout, il y a quand même des forêts ancestrales. Moi, je pense à la forêt de Fontainebleau ou Rambouillet, qui sont quand même des forêts qui sont là depuis fort longtemps. Je dirais pas depuis toujours, mais depuis fort longtemps.
Bien sûr, oui. On a des forêts ancestrales, évidemment. On peut penser aussi la forêt de Troncé, par exemple, qui est une des plus belles chênaies d'Europe, où on a toutes ces forêts-là sont des reliques, en fait, de forêts très anciennes. Mmh. Mais il y a un renouvellement parce que, par exemple, à Troncé, on a la futaie Colbert, hein, donc, qui est une futaie qui a été plantée donc, à l'époque de Colbert.
Hein, sous Louis XIV.
Voilà, de Louis XIV. Donc ça, cette parcelle-là, elle a des arbres contemporains, donc de Louis XIV, qui est devenue trop dangereuse. Donc on la laisse aujourd'hui mourir de sa belle mort. C'est-à-dire qu'on ne l'entretient plus.
D'accord.
Les troncs morts vont créer, si vous voulez, une nouvelle vie, une nouvelle richesse, une nouvelle biodiversité. Alors on ne s'y promène plus précisément dans cette futaie-là parce que les branches qui tombent de
40
mètres de haut, c'est très dangereux. Voilà, donc maintenant on visite la futaie Colbert 2 à Troncé. Donc on a des chênes majestueux, c'est vraiment splendide à voir.
Donc ils ont plusieurs siècles, qui ont vu du monde. Qui ont vu du monde, pourrait-on dire. Alors, donc ces forêts que l'on entretient, comment ça se passe? Qui, d'une façon générale, c'est quoi? C'est la région, c'est l'État, c'est le ministère de l'Environnement, de l'écologie, de la culture. Comment ça se passe, l'entretien? Quelle est l'échelle, dirais-je, l'échelle de commandement, entre guillemets, pour ces forêts? Comment ça se passe?
Oui, parce que, en fait, les forêts, il y a des forêts privées, et puis il y a la forêt qui appartient à l'État. Donc là, c'est géré, en fait, par l'Office national des forêts, qui parfois aussi gère d'autres forêts, qui ne lui appartiennent pas.
Oui.
Mais du fait de son expertise et de son savoir-faire, la gestion forestière, après, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est quand même, au départ, une ressource qu'on exploite, le bois. Alors, c'est vrai qu'il y a souvent une incompréhension du public quand il se retrouve face à une parcelle complètement rasée, parce que le bois a été récolté. De toute façon, il faut savoir qu'une forêt a besoin d'être entretenue pour se régénérer.
Bien sûr.
Il faut couper.
Eh bien, écoutez, ce que nous allons couper, c'est faire avec cette petite pause musicale. Et nous nous retrouvons tout de suite après. Thank you. Nous nous retrouvons sur l'émission Délivrez-vous pour ces deux ailes avec Natacha Penaud pour ce livre En forêt aux éditions Gallimard. Est-ce que également vous, on peut remarquer dans ces forêts un nouvel engouement du français pour ces forêts, de par ses activités, comment dirais-je, une nouvelle histoire d'amour? Est-ce que justement avec ce retour un peu aux sources, à la nature, au naturel, au bien-être personnel, est-ce que on va de nouveau un peu plus en forêt se balader?
Oui, mais de toute façon, les Français vont en forêt. C'est quand même... C'est un patrimoine qu'on a à côté de chez soi. Donc l'idée justement de ce livre, c'était de montrer que ce n'est pas qu'un lieu de promenade,
hein,
pour faire beaucoup plus de choses.
Bien sûr.
Là, pour la première fois, on aborde en fait la forêt sous l'angle du tourisme,
oui.
Presque. Mm. Et voilà, qu'est-ce qu'on peut faire en forêt? La forêt, c'est le dépaysement, c'est une mine d'activité, ça peut être ludique, ça peut être culturel, ça peut être un lieu de mémoire.
Oui.
Je pense à la forêt de Verdun,
tout
par exemple.
Tout à fait, hein. J'y pensais, oui, tout à fait. Oui. Verdoumont, entre autres.
Oui, oui. Voilà. Donc, on a abordé ça un petit peu sous l'angle, comme un guide de voyage. Hein,
oui, tout à fait, c'est ça. Avec des adresses, des conseils.
Des adresses, voilà, où dormir.
Où dormir, oui.
Des prestataires d'activités sportives, voilà, faire du canyoning en Corse, par exemple, de la via corda, justement dans le bois de Paillolive, au cirque d'Andieu. Il y a vraiment plein d'activités possibles.
Oui. Alors, je vous demandais tout à l'heure, l'une des forêts qui vous a peut-être le plus ému ou le plus touché, vous parliez donc de cette forêt dans les Cévennes. Parmi les forêts que vous connaissez, que vous avez étudiées, dans lesquelles vous avez été, celle où justement, où des activités vous semblent sympas, où on peut faire plein de choses, où les familles, les amis, on peut se retrouver pour une journée, un week-end. Est-ce qu'il y en a une en particulier qui vous a intéressé à ce sujet?
Oui, il y en a beaucoup. Hein,
oui.
Les forêts corses, par exemple.
Oui.
Les forêts corses, c'est vrai que là, c'est quelques-unes des plus belles forêts de France, faut le dire. Hein,
oui.
Avec les forêts de pin laricieux, qui est le pin laricieux, c'est l'espèce endémique à la Corse. Hein, donc, par exemple, dans la forêt de Visavona, on a des pins laricieux vraiment splendides. Et dans les forêts corses, justement, comme on est dans la montagne, il y a tout un tas d'activités. Il y a la baignade en rivière, il y a le canyoning, justement. Il y a toutes sortes d'activités aussi, en rapport avec les arbres, de l'escalade.
Oui.
De l'escalarbre, même.
Ou l'escalarbre, oui.
Voilà. Et de l'acrobranche. Il y a vraiment énormément d'activités possibles. Encore ça, c'est vrai que, en plus, il y a la météo qui
s'y prête.
Aussi,
oui.
Qui s'y prête,
oui. Voilà. Alors, vous qui voyagez, puisque vous étudiez la France, l'Europe et le monde pour vos guides de voyage, vous avez certainement à travers le monde rencontré d'autres forêts. Est-ce que la forêt française est unique? Est-ce qu'elle a une particularité par rapport à d'autres forêts que vous pourriez connaître dans le monde?
La forêt française, il y a une particularité déjà, c'est la toutes nos forêts domaniales, en fait, sont des anciennes forêts royales. Donc, c'est vrai qu'on a une architecture des forêts qui est assez particulière. Quand on prend les forêts domaniales, par exemple la forêt d'Orléans, ce sont des forêts donc aménagées pour la chasse, donc avec ces grandes allées. Avec ces ronds-points qui étaient le rendez-vous des chasses à cours. Donc ça, il y a vraiment une physionomie typiquement française.
Oui. Il y a la forêt historique, je pensais à la forêt de Compiègne.
Oui, la forêt de Compiègne, bien sûr, aménagée aussi pour les chasses royales.
Oui,
hein,
oui.
Pour le bon plaisir des grands.
et des petits, oui.
Oui.
En fait, on se rend compte en lisant le livre que chaque forêt, bien sûr, a une thématique, mais finalement, c'est une part de notre histoire. Parce que vous parliez des forêts domaniales, donc voire royales, mais toutes La plupart sont liés à une histoire, à un ancien château, à un roi, à une histoire, à des personnages aussi. Et en fait, de ce fait, la forêt devient aussi un personnage à part entière.
Oui, 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 tout à fait. C'est, on a essayé justement de raconter la forêt aussi sous cet angle-là. C'est-à-dire, c'est pas, on fait pas juste une présentation. C'est pas une présentation exhaustive. L'idée, c'est de montrer vraiment la personnalité de chaque forêt, vraiment ce qui la rend unique. Donc, comme tu dis, ça peut être son histoire, ça peut être sa topographie, ses essences. Voilà. Mais c'est vrai que l'histoire, c'est un aspect important. Et en effet, quand on va en forêt de Verdun, on n'a pas la même histoire que quand on va en forêt de Compiègne. Oui. Voilà.
Chaque forêt, d'ailleurs, a son ambiance en fonction de l'histoire. Oui. Parce qu'effectivement, quand on va à Verdun, il y a une sorte de calme, de paix comme ça, un petit peu émouvante, touchante, je trouve, qui s'inscrit pour l'avoir un peu vécu. Oui. Et vous allez, je sais pas, moi je parle de Fontainebleau parce que c'est une forêt que je connais bien, l'ambiance est tout autre. C'est une forêt, je trouve, plus festive, un peu plus mystérieuse aussi, avec ses rochers, ses balades. Et chaque forêt a son ambiance, en fait. C'est ça qui est extraordinaire.
Oui, oui. Ah oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Et justement, bah, par exemple, à côté de Verdun, enfin à 35 km de Verdun à peu près, il y a un lieu que j'invite vraiment à découvrir, c'est le Vent des Forêts. Ça, ce sont six petits villages qui se sont réunis pour créer un espace d'art contemporain à ciel ouvert dans la forêt. On part en fait, on se promène en forêt à la découverte d'une centaine d'œuvres d'art. Qui sont disséminés le long, il y a à peu près, je crois, 45 km de sentier.
Oui.
Et là, c'est pareil. Là, on plonge dans un univers complètement différent, à la fois poétique, surprenant. Et voilà, c'est un lieu plein d'audace qui permet une découverte de tous les instants. Et voilà. Donc ça, c'est vraiment un lieu que j'invite
à découvrir.
À découvrir. Oui.
Comment s'est fait le choix et le travail entre vous tous? Comment s'est construit le livre, l'histoire entre vous, ce lien? Moi, j'ai envie d'appeler ça d'un lien social presque.
Oui. Bah, déjà, je pense qu'on a tous un petit peu choisi déjà les forêts qui étaient chères, celles qu'on a connues dans notre enfance.
Bien sûr.
Bon, moi, je suis de Touraine, je suis originaire de Tours. Donc, évidemment, moi, c'est, par exemple, Chambord.
Chambord, oui, bien sûr.
Voilà, moi, j'ai connu ça très jeune. Donc, ça, c'est évidemment un lieu que je voulais, aborder.
Oublier le château, bien évidemment.
Sans oublier le château, oui, parce que l'idée aussi, c'est
d'associer les monuments,
forêts, mais aussi des richesses qu'il y a autour, à proximité. Donc évidemment que quand on va à Chambord, ça évoque tout de suite le grand chef-d'œuvre de la Renaissance.
Bien sûr.
Ce chef-d'œuvre voulu par François Ier pour en faire un pavillon de chasse.
Absolument.
Très modeste, comme on le sait.
Très modeste, absolument.
Voilà, mais Chambord, c'est aussi la plus grande forêt close d'Europe.
Ah oui.
Donc, et ça, c'est évidemment qu'on ne visite pas l'un sans l'autre. Complémentaire et indissociable.
Bien sûr. Est-ce qu'il y a encore beaucoup de gibier dans nos forêts et gibier qui peuvent vivre en paix?
Alors, c'est pas. Il y a beaucoup de gibier. La régulation, par contre, est nécessaire.
Oui.
Pour que la forêt puisse survivre, en fait, il faut qu'elle soit régulée. Parce que on a moins de prédateurs dans nos forêts. On a d'ours ou de loups, comme il pouvait y en avoir avant.
C'est dommage.
Donc, oui, c'est dommage, mais voilà. Mm-hmm. Et donc, si on a une trop grosse population de cerfs, de chevreuils, de sangliers, ces animaux-là vont dévaster le terrain, c'est-à-dire que les jeunes pousses d'arbres vont être mangées, piétinées. Donc si on veut que la forêt puisse se développer, il ne faut pas que les populations justement d'animaux soient trop importantes. Donc c'est pour ça que la chasse est nécessaire.
Et régulée, et nécessaire et régulée.
Voilà.
Oui,
il
et
faut qu'elle soit régulée. Et, voilà.
Et puis l'achat, ce qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est une activité ancestrale aussi. Donc elle s'inscrit dans notre histoire et dans notre culture aussi.
Oui.
Alors vous, donc, qui dirais-je, traînez vos guêtres un petit peu partout sur notre belle planète, votre prochaine destination, vos prochaines envies, vos prochains coups de cœur, dites-nous un petit peu votre programme pour les prochaines semaines, éventuellement.
Ah, pour les prochaines semaines, là, c'est le Portugal.
D'accord.
Le Portugal. Voilà. Où il y a aussi de
belles forêts. Oui. 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 Et à travers le monde, puisqu'on parle des forêts, une forêt dans le monde, une ou deux forêts dans le monde que vous avez trouvé magnifique, ou que vous pourriez recommander à nos auditeurs si un jour ils vont dans le pays à qui appartient cette forêt.
Alors.
Ah ah.
Ouais, même question.
Ou une jungle. Moi, je pensais à la jungle du Costa Rica. C'est de l'écosystème, c'est de la biodiversité. Je crois que c'est un des pays au monde où les jungles sont bien entretenues grâce à des propriétaires privés, mais il y en a certainement d'autres à travers le monde.
Moi, ça c'est pareil. C'est un coup de cœur qui date aussi de l'enfance, mais c'est pour avoir voyagé au Maroc.
Oui.
C'est les forêts de l'Atlas. Hein.
Oui.
Avec les singes qui s'approchent. Ouais. Non, ça, bon, moi, ça fait partie des lieux que j'aime, j'aime beaucoup. Ouais. Mm-hmm.
Et que vous pourriez recommander aux voyageurs qui vont au Maroc.
Fait, oui. Oui. Ah oui, oui, oui.
Bon, bien écoutez, donc on a bien noté que votre prochain voyage c'est le Portugal, que vous nous recommandez les forêts du Maroc. En tout cas, c'est un très beau livre. Pour conclure, est-ce que vous-même vous baladez en forêt, Natacha Penaud?
Oui.
Voilà. Donc vous êtes bien placée pour cela, donc avec toutes les activités proposées dans le livre. Donc je disais, c'est un livre en forêt avec liste non exhaustive bien évidemment dans chaque région avec ce collectif d'auteurs avec les activités que l'on peut faire en forêt et puis surtout la préserver, la protéger et la respecter. Je crois que c'est très important.
Oui, tout à fait.
Voilà, donc En forêt aux éditions Gallimard, c'est un livre à offrir ou à s'offrir, hein. Je disais, c'est bientôt Noël, donc pour les amoureux de la nature et puis pour les autres. Ce fut un plaisir de bavarder avec vous, je vous remercie infiniment.
Merci beaucoup de l'invitation.
Avec plaisir, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année et puis eh bien, alors bon voyage au Portugal, ramenez-nous un joli guide, voilà.
Merci beaucoup.
Merci, au revoir.
Bonne fête à vous aussi.
Merci, au revoir. Au revoir.